Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Manger sainement.
La méditation. Échanger avec les autres.
C'est bon pour la santé.
Respecter mon rythme à moi.
Le bénévolat,
c'est bon pour la santé.
On est de bien meilleure humeur.
J'adore cuisiner pour moi, pour mes enfants.
J'ai mille fois plus d'énergie que j'en avais avant.
Pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop de gras. Faut pas virer fou.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bonjour, bon début d'après-midi. Un plaisir de vous retrouver, Marianne Paquette, au micro pour ce 28 minutes de C'est bon pour la santé sur Canal M. Aujourd'hui, 21 septembre, journée mondiale de la maladie d'Alzheimer. C'est un moment privilégié pour avoir une pensée pour les 745 000 personnes touchées par la maladie ici au Canada et aussi à leurs proches. Je tiens à souligner que pour chaque personne atteinte, on compte deux proches aidants ou plus qui apportent soins et soutien. Et on le sait, l'accompagnement, oui, d'une personne qui vit avec la maladie d'Alzheimer, ben, c'est exigeant et extrêmement précieux à la fois. Donc, jeudi, c'est bon pour la santé, souligne cette journée à notre façon. Marie Gendron, fondatrice de l'organisme Baluchon Alzheimer, sera là pour parler de son livre « Le mystère Alzheimer ». Mais aujourd'hui, on parle sexualité et handicap parce qu'à la fin du mois, Vie autonome, qui est un réseau de personnes et de centres ressources qui militent partout au pays pour la dignité et l'autonomie des personnes handicapées, oui, mettra en branle le projet pilote « Sexy Able », des ateliers qui seront dirigés par une sexologue et qui visent à discuter de différents aspects de la vie intime des personnes qui vivent avec un handicap et bien sûr de continuer à briser les tabous. J'en parlerai tout à l'heure avec Rosie Arcurie, coordonnatrice du programme, et Marianne Rodrigue, stagiaire en sexologie. Et puis d'abord, je vous parle d'une pièce de théâtre que je suis allée voir mardi dernier, la pièce « Rendez-vous Gare de l'Est » qui ouvrait la saison de la salle Fred Barry au Théâtre Denise Pelletier dans l'Est Sainte-Catherine. La pièce aborde d'une façon assez crue, plutôt réaliste, très, très authentique, la bipolarité. Et j'en discute à l'instant avec son auteur, Guillaume Vincent. Guillaume Vincent, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes dramaturge, auteur de la pièce « Rendez-vous, Gare de l'Est » qui est présentée en ce moment à la salle Fred Barry du Théâtre Denise Pelletier. C'est une pièce qui raconte le quotidien d'une jeune femme qui vit avec la maladie bipolaire. Guillaume, qu'est-ce qui vous intéressait à démontrer, à montrer sur une scène de théâtre le quotidien de quelqu'un qui vit avec une maladie mentale?
En fait, au départ, c'est vrai qu'il y avait l'idée d'interroger quelqu'un qui était malade parce que c'était une maladie que je connaissais pas et puis que je connaissais très bien la personne que j'interviewe et qui souffrait de cette maladie. Mais bizarrement, cette maladie qui est si présente et qui prend tellement de place dans la vie de quelqu'un qui est atteint de cette maladie, de la bipolarité et de l'entourage, finalement, je lui ai posé assez peu de questions sur ce sujet-là. Et voilà, et j'avais envie un peu d'en savoir plus et donc je lui ai proposé de se voir pour faire des entretiens, pour parler de ce sujet-là. Et après, je me suis rendu compte que ce qui est intéressant aussi, c'est de parler aussi des à côté de la maladie, et pas seulement que de la maladie, mais d'en faire un portrait de femme qui soit le plus fidèle possible à elle, et pas que tout passe par le prisme, effectivement, de la maladie, même si, quand on souffre de cette maladie, on est très affecté par ça au quotidien.
Ouais. Guillaume, le texte s'est créé d'une façon assez particulière, un peu sous une forme documentaire.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, pendant 6 mois, j'ai interrogé une jeune femme. Donc voilà, ça s'appelle Rendez-vous Gare de l'Est parce que c'était dans les cafés proches de la Gare de l'Est à Paris.
Okay.
Et en fait, j'ai recueilli sa parole, donc j'ai enregistré sa parole. Et ensuite, quand je rentrais chez moi, je recopiais absolument tout ce qu'on s'était dit en essayant de ne rien oublier, de ne rien mettre de côté. Donc, il y avait à la fois les balbutiements, les défauts du langage parlé. Mmh. Et voilà, et après, de cette matière, j'ai réuni à peu près 200 pages. Et puis, petit à petit, on a commencé avec la comédienne Émilienne Kirti à faire un montage et à essayer de faire le portrait de cette femme sur 50 minutes, en essayant d'être le plus... en essayant de parler de tous les aspects de sa vie, ouais, en fait.
Voilà. Et qu'est-ce qui a guidé vos choix d'en savoir, OK, je retranche ces pages-là et je conserve ce récit-là?
Ben, disons que ça a été un travail qui a été très long parce que ça s'est fait sur plusieurs années. Enfin bon, on ne travaillait pas dessus tous les jours pendant plusieurs années, mais ça a été très dur de trouver l'angle d'attaque. Et c'est-à-dire, parce que des fois, quand elle raconte par exemple des épisodes à l'hôpital où tout d'un coup, il y a des crises de paranoïa où tout d'un coup, elle pense à des choses qui sont fausses ou voilà, elle est mise dans un certain état. Voilà, où c'est assez extraordinaire, pour quelqu'un qu'on connaît pas, ça peut être assez impressionnant. Mais aussi, voilà, c'était de doser, disons, entre ces choses un peu extraordinaires de la maladie, puis des choses parfois aussi plus concrètes, plus banales, comme le fait d'avoir des difficultés à travailler à cause de ça, le fait d'avoir des difficultés à être en couple. Donc voilà, ça, on a essayé d'être, voilà, les choix se sont opérés en essayant de faire un portrait qui soit le plus complet possible, je dirais.
Et assez impressionnant, c'est le cas de le dire, parce que la pièce a été présentée en 2012 en France, d'entrée de jeu, mais aussi dans des hôpitaux psychiatriques, dans des prisons et même dans des congrès de psychiatres. Et bon, vous relatez qu'il y a des psychiatres qui étaient même étonnés, même après plusieurs années de pratique, de dire « OK, maintenant, avec cette pièce-là, j'ai vraiment accès à ce que vivent mes patients ».
Ben oui, c'est-à-dire qu'en fait, moi, quand j'ai interrogé cette personne, je me suis pas mis dans la tête d'un psychiatre ou d'un psychanalyste ou d'un médecin. Je l'ai interrogé comme un ami. Donc, cette parole-là, où les malades parlent de la maladie de manière amicale, entre guillemets, ou de manière très spontanée, et pas du tout dans un cadre de rapport de patient à malade, c'est des choses qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre, en fait, je dirais.
Ça a été reçu comment, la pièce, en 2012, en France?
Ben, ça a été plutôt très bien reçu, mais c'est une pièce qui a fait un long chemin, c'est-à-dire qu'on l'a créée de manière assez modeste, je dirais, à Reims, et puis après, on l'a jouée au Bouffe du Nord, et puis après, donc on a fait une tournée, puis après, on l'a jouée à Avignon, au Festival d'Avignon, et là, il y a eu beaucoup de gens qui ont été intéressés par la pièce et du coup on va la rejouer à nouveau à Paris, mais cette fois au Rond-Point. Donc cette pièce chemine comme ça depuis 3 ans. Donc là on joue au théâtre Denis Pelletier à Montréal, mais on est allé jouer aussi à Princeton. Donc c'est un spectacle qui voyage beaucoup depuis pas mal d'années et on en est très, très heureux.
Est-ce que c'est une façon de défaire les préjugés envers la maladie mentale? Ici au Québec, il y en demeure de moins en moins. On ressent les gens d'avoir un dialogue sur la santé mentale pour défaire la stigmatisation. Est-ce que c'est le cas aussi en France?
Ben, c'est-à-dire que je pense que c'est un spectacle qui aide à comprendre, en fait. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est une maladie, finalement, dont je me rends compte, en tout cas en France, qu'elle est très répandue. Alors après, il y a des degrés, il y a des gens qui sont plus ou moins malades, plus ou moins atteints, mais effectivement, je pense que c'est un spectacle qui aide à la compréhension en général. Après, c'est pas un spectacle à but pédagogique, je dirais, dans le sens où mon but, c'est pas forcément de parler de la maladie, ou de vouloir dire ça ou ça, c'est plus large, je dirais.
La pièce peut être plutôt crue lors de la réception parce que la comédienne est seule sur scène, éclairage ouvert dans la salle, un rapport très frontal aussi avec le public. Est-ce que c'était un choix, ça, de livrer le message de cette façon-là?
Oui, parce que en fait, j'avais vraiment besoin que ces rendez-vous, justement, ces entretiens soient au centre de la pièce et donc que on voit une personne qui soit face à une audience, face à un public, et donc il y a une sorte de, entre guillemets, confrontation. Après, voilà, c'est effectivement pour le public, ça peut être parfois un peu déstabilisant, en tout cas au début, parce que ils voient que la comédienne les voit, donc on a l'impression qu'elle leur parle directement à eux. Donc voilà, il y a comme une sorte de dialogue où l'une des deux parties est muette. Mais voilà, il y a quelque chose de ce genre qui s'instaure entre la comédienne et le public. Oui.
C'est une pièce aussi qui, j'imagine, à travers les années, a permis de créer un dialogue. Vous l'avez présentée dans des prisons où les gens se sont sentis interpellés. Je parlais tout à l'heure de psychiatres. Il y a probablement aussi des gens qui assistent à la pièce et qui ont vécu des épisodes soit de dépression ou de maladie et qui se reconnaissent et que ça leur fait du bien d'entendre le récit.
Oui, c'est vrai que les gens qui sont eux-mêmes, qui sont dans une situation proche de l'héroïne, entre guillemets, on a une écoute qui est assez différente des autres, dans le sens où ils sont peut-être beaucoup moins dans l'émotion, entre guillemets, parce que c'est vrai que c'est un spectacle qui peut provoquer des charges assez fortes d'émotions, parce que c'est quelque chose qui n'est pas facile. En tout cas, les malades eux-mêmes ont plutôt une sorte de simplicité ils ne le reçoivent pas du tout de manière dans les pleurs, dans les choses comme ça. C'est beaucoup plus simple pour eux, peut-être, bizarrement.
Un exutoire, un petit peu, hein? Le théâtre sert à ça. En terminant, vous, Guillaume-Vincent, ça vous a permis d'apprendre quoi sur la maladie mentale, la bipolarité, ce spectacle-là?
Je ne sais pas ce que ça m'a appris. En tout cas, ça m'a appris à me dire que, voilà, que c'était quelque chose qui était assez dur et puis qu'il fallait beaucoup de patience pour l'entourage, beaucoup d'écoute, beaucoup... voilà, après,
d'empathie hein, aussi.
Oui, après, c'est vrai que c'est un spectacle où les gens se livrent beaucoup. Après, quand il y a des spectateurs qui nous attendent pour nous parler, ils nous parlent beaucoup d'eux. Et il y a comme ça quelque chose qui est assez fort, en fait, de la part du public, qui est très affectif, souvent, par rapport au spectacle. Et donc c'est quelque chose d'assez réjouissant. Ouais.
Rendez-vous Gare de l'Est est présenté jusqu'au 26 septembre à la salle Fred Barry du Théâtre Denise Pelletier. Guillaume-Vincent, vous en êtes l'auteur. Merci beaucoup.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Votre quartier a mis en place une initiative pour améliorer le bien-être de ses citoyens. Vous avez adopté de nouvelles habitudes de vie et depuis, vous dormez mieux. Votre handicap ne vous empêche pas de suivre des cours de danse. Marianne veut tout savoir sur la santé. Partagez vos expériences à canalm@buzevoix.com ou par téléphone au 1-800-361-0635, poste 220. Suivez C'est bon pour la santé sur Facebook et Twitter.
La sexualité des personnes handicapées, c'est une réalité qui est encore trop souvent ignorée. C'est tabou, incompris, c'est gênant aussi d'en parler. Et je le fais à l'instant avec Rosie Arcurie, coordonnatrice de programme pour le mouvement Vie autonome, et Marianne Rodrigue, stagiaire en sexologie. Je le disais tout à l'heure, c'est la première fois que je fais une interview avec quelqu'un qui a le même prénom que moi. J'espère que les auditeurs ne seront pas trop, trop mélangés. Alors, vous êtes là pour nous parler de ces ateliers qui s'appellent « Sexy Able ». Ça venait d'où la mise sur pied de ces ateliers-là pour répondre à quels besoins? Peut-être un constat également, Rosie?
En effet, nous, on vient de Vie Autonome Montréal. Je ne vais pas trop aller en détail, mais c'est un organisme qui va vraiment pareil pour des personnes en situation de handicap, peu importe l'handicap. Alors, nous, on essaie de donner de l'information, des ressources. On essaie de vraiment écouter nos membres, écouter aussi la communauté. Alors, on avait commencé avec une soirée cinéma, un atelier, par exemple, la vie en couple. Et c'était vraiment fortement demandé qu'on va plus loin. Et on voyait un atelier ici et là, mais on voulait foncer, on voulait... vraiment être capable d'offrir, oui, une série d'ateliers, des cafés discussions, mais d'avoir quelqu'un là plus longtemps. Alors, c'est de où commence l'idée. Et grâce, on va en parler tout le temps, mais grâce au partenariat avec l'UQAM, on a pu faire ça, on a pu avoir Marianne qui est avec nous jusqu'en avril. Alors, c'est là que ça commence. C'est les gens qui le veulent, c'est les gens qui veulent s'impliquer, qui veulent avoir plus d'informations, qui veulent explorer le sujet. Alors, on est là pour répondre à ça.
Et vous avez senti le besoin parce que, comme vous le disiez, Rosie, les ateliers ont commencé, un semblant d'atelier a commencé à l'automne dernier. Vous avez commencé à parler avec vos membres, ceux bien sûr intéressés, intimité, couple, et il y a eu une forte demande. Donc, il y a un besoin, mais pourtant, parler de sexualité, c'est pas facile pour personne, c'est un petit peu tabou. Les sexologues le disent souvent, hein, c'est gênant d'aborder ces questions-là. Est-ce que ça l'est davantage pour les personnes handicapées?
Je pense que les personnes handicapées, c'est sûr qu'ils ont des situations quand même assez uniques, mais en même temps, sont comme tout le monde. Il y en a que c'est super gênant, encore plus que peut-être quelqu'un qui n'a pas d'handicap, et il y en a que non, parce que c'est la vie et que c'est un sujet qui ont besoin ou qui ont un intérêt. Alors, Marianne, peut-être tu pourrais en discuter un peu plus, mais en gros, ça dépend beaucoup de la personne et c'est important que ça soit mis à l'avant et je pense que les gens sont prêts à le faire.
Bien sûr, le profil des membres de Vie Autonome est probablement très, très vaste. Oui. Mais est-ce qu'il y a des questions, Marianne, récurrentes, des inquiétudes, des questionnements que vous entendez souvent?
En fait, moi, je n'ai pas encore eu de contact vraiment avec la clientèle. On fait ça cette semaine dans un café discussion. Par contre, à travers mes recherches, C'est quelque chose qui ressort beaucoup. L'idée un peu de, que tout le monde a, la, de la normalité, je ressens ça, est-ce que je suis normale, j'ai telle envie, tel désir. Donc ça, ça fait écho un peu à la population générale, là, les mêmes besoins. Et puis, c'est ça, donc moi, j'attends que les membres viennent me parler de leurs questions, de leurs réussites aussi, de ce qui les allume. Donc,
Il y aura trois volets. Donc, café-discussion, des rencontres individuelles, le développement d'outils et de références aussi. Comment tout ça sera distribué?
Mais en effet, on va avoir des cafés-discussions et des séries d'ateliers. Ça va être un peu tout au long. Ça va être en automne et au début de l'année prochaine. Le guide va être fait basé sur tout ça. On va voir les besoins des gens, on va voir leurs intérêts et malheureusement, on ne peut pas avoir Marianne avec nous pour comme les 5-10 ans qui viennent. Alors,
qui sait, peut-être qu'elle aura un coup de foudre.
On serait heureux. Mais l'outil, le but, c'est vraiment d'être capable de dire, peut-être voici les questions que les gens ont eues le plus souvent, voici les références qu'on a envoyées les gens vers ces références-là, d'avoir vraiment un outil tangible qui va rester après. Avec tout ça, en hiver, Marianne aussi va pouvoir rencontrer les gens individuellement pour voir vraiment leurs besoins, pour pouvoir répondre à leurs questions. Des fois, c'est bien beau d'être en groupe et on apprend souvent d'un ou l'autre, mais il va y avoir des choses, des questions que ça va être mieux individuel.
Ouais.
Alors, on est là aussi pour l'offrir.
Le projet débute fin septembre, c'est jusqu'en avril, on le disait tout à l'heure. Marianne, pour vous, est-ce que ce sera une première expérience avec une clientèle de personnes qui vivent avec un handicap?
Oui, en fait, c'est mon premier stage dans le cadre du baccalauréat en sexologie à l'UQAM. À travers nos cours, on ne voit pas nécessairement la réalité des gens en situation de handicap. J'ai eu la chance de faire un projet avec trois coéquipières sur les blessés médulaires que j'avais trouvé vraiment fascinant. J'avais trouvé, ça m'avait vraiment ouvert l'esprit. Des gens qui ont des problèmes, une problématique un peu différente selon leur réalité. Et puis, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment beaucoup. Et je trouve qu'il y a pas tant de choses que ça de disponibles, de ressources. Et je pense que ça vaut vraiment la peine d'aller creuser. Ça peut être très riche.
Bon, on le disait tout à l'heure, ça semble être une lacune des sexologues qui sont vraiment spécialisés avec une clientèle de personnes qui vivent avec différentes limitations. Rosie, c'est une façon peut-être un petit peu de pallier à ce manque-là? Pour d'offrir ce service-là à vos membres?
Mais oui, en effet, oui, absolument, parce que comme tu avais dit, oui, il y a quelques sexologues qui en connaissent ou qui savent, mais en même temps, l'idée d'avoir un stagiaire, c'est super, parce que ça veut dire que Marianne est vraiment là pour 14 heures semaine, elle est là à être disponible à nos membres, elle est là à... Oui, absolument, d'apprendre, mais aussi de partager parce que même si peut-être elle n'a pas l'expérience ou elle a un peu moins d'expérience par rapport aux personnes en situation de handicap, elle a quand même toutes les expériences en termes de ses cours, en termes de la recherche, elle a une recherche, une richesse de tout ça et on est super ouverte aux gens et on est là pour...
Il y a combien de membres au Québec chez Vie Autonome?
Bien, en effet, Vie Autonome Montréal, c'est un de 26 centres par rapport à la vie autonome
au Canada. Oui, oui.
Il y en a trois au Québec. Et à Montréal, il y en a presque 300 membres à Vie Autonome Montréal.
OK.
Qui veut dire, par contre, que... on est beaucoup.
Oui!
Mais quand on fait des ateliers, quand même, c'est normalement des groupes assez... où les gens, on est sûr que tout le monde a la chance de parler.
Oui, de participer.
Exactement. On est très... Je pense qu'on est assez chaleureux, assez ouvert. Et c'est aussi gratuit d'être membre. Alors, on essaie de faciliter le processus le plus possible.
Ouais. Et pour ces ateliers-là, est-ce que vous avez déjà une petite idée des gens, du profil des gens qui se sont inscrits?
En effet, quand on parle d'un peu de notre mission, on parle vraiment tout type de handicap. On parle de tout type de anglais, français, de langue, tout ça. Alors, il n'y a pas un profil en tant que tel. On va avoir une vaste gamme de sujets qu'on va couvrir. Alors, c'est vraiment une question d'avoir l'intérêt. C'est une question de vouloir découvrir, apprendre, approfondir, de vouloir creuser. Tout le monde est complètement ouvert à nous joindre.
Est-ce que les gens vont devoir être à toutes les rencontres de octobre à avril ou ils peuvent venir parfois de façon irrégulière?
Bien, c'est sûr que si les gens venaient tous les fois, on serait plus heureux de leur accueillir. en disant ça, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va avoir des ateliers, des discussions un peu plus ponctuelles, un peu de temps en temps sur des sujets différents. Et après ça, on va avoir deux séries d'ateliers où on recommande que les gens qui viennent aux séries d'ateliers vont venir à chaque série, parce que, excuse-moi, à la série au complet, mm-hmm. parce que ça va nous permettre d'avoir une suite, ça va nous permettre de vraiment creuser et de répondre à une clientèle cible.
Oui. Est-ce que vous avez déjà une idée, peut-être, Marianne, vous avez cette idée des thèmes qui seront abordés au cours des différents mois?
Oui, en fait, on veut aborder vraiment un grand éventail de thèmes pour être sûr de rejoindre le plus de personnes. Donc, on veut faire une rencontre sur les tabous de la sexualité et des personnes en situation de handicap. Un peu plus un sexualité 101, donc la base sur la contraception, les ITSS, et puis surtout sur l'estime de soi, l'image corporelle, l'intimité dans le couple. Donc, on veut vraiment toucher plusieurs thèmes parce que les gens ont vraiment une vaste expérience, puis chacun a un vécu différent.
Oui, selon le handicap, ça peut changer... Bien sûr, là. Est-ce qu'il y aura un volet pour les aides techniques, par exemple? On peut penser qu'il peut y avoir des outils, des façons un petit peu de faciliter la vie sexuelle des personnes qui vivent avec un handicap.
En fait, j'ai une membre m'a approchée justement pour me demander où est-ce qu'elle pourrait trouver un petit banc qui pourrait faciliter quelque chose. J'avais pas vraiment pensé à ça, donc je suis en train de faire des recherches justement pour voir s'il y a des compagnies ou des endroits qui offrent des aides comme ça. On veut aussi faire un café discussion sur l'accompagnement sexuel.
Ouais.
C'est un sujet chaud.
Ouais.
Donc, je pense que ça devrait être assez populaire.
Ça suscite beaucoup de discussions, hein, parce qu'on le sait, ça se voit ailleurs, mais ici, je ne crois pas qu'il y ait vraiment d'accompagnateur là, sexuel encore.
Non, il n'y a rien d'officiel qui se fait dans la toute l'égalité, c'est ça, on va regarder ce qui se fait ailleurs, ce qui pourrait se faire ici, mais aussi aborder les besoins auxquels ça peut répondre, parce que souvent, c'est pas seulement que l'acte sexuel, c'est un besoin d'intimité, de renforcement de l'estime de soi et tout ça.
Donc, et c'est controversé parce que certains spécialistes se diront pour et d'autres contre. Mm-hmm. Donc, ça peut amener aussi sujet chaud parce qu'il y a débat à avoir là, sur la question. Les tabous, Marianne ou Rosie, vous pourrez répondre. Mm-hmm. Est-ce qu'ils viennent des personnes handicapées elles-mêmes ou plutôt des autres membres de la population, de ce regard ou de cette méconnaissance?
Personnellement, je crois que c'est des deux. Mm-hmm. En fait, il y a les préjugés, les stéréotypes qui sont véhiculés et puis qui sont intégrés ensuite par les gens. Habituellement, il y a deux pôles, soit la personne handicapée comme étant asexuelle, qui n'a pas de désir, qui ne devrait pas avoir accès à la sexualité parce que...
Et qui n'engendre pas de désir.
Exactement,
aussi,
qui n'est pas désirable ni désiré. Oui. Et l'autre côté, qui est souvent l'hypersexualisation des personnes qui sont l'image un peu de l'obsédé qui pense qu'à ça. Je pense que les personnes en situation de handicap vont internaliser ça, puis se dire soit qu'ils n'ont pas droit à une sexualité saine. Mm-hmm. Et donc... un des buts de Sexyable, c'est vraiment d'aider les gens à naviguer un peu entre ça, puis de découvrir ce qui leur convient, où ils se situent justement entre ces deux pôles.
Mm-hmm. Rosie, est-ce que vous avez des membres qui vivent, par exemple, en centre d'hébergement, CHSLD, qui ne sont pas nécessairement à la maison?
Mm-hmm.
Oui. Alors, il y a aussi tout cet aspect, cette question du lieu, le droit à l'intimité. On l'a vu d'ailleurs dans ce film d'Anaïs Barbeau-Lavalette, « Prends-moi », qui exprimait bien cette sexualité en CHSLD chez les jeunes adultes qui vivent avec un handicap. Il y a aussi cette question-là, le droit à l'intimité. Mm-hmm. Ça serait intéressant d'en parler. Le temps file à vive allure. J'aimerais que vous nous parliez de ce partenariat avec l'UQAM. C'est ce qui vous a permis, je pense, Rosie, d'avoir la présence de Marianne avec vous.
Absolument. Alors, nous, l'année passée, on commençait un peu tout qui est Sexyable et on était à une rencontre à l'UQAM, en effet. Et moi, je cherchais vraiment des intervenants parce que je ne suis pas sexologue. Alors, j'ai parlé avec quelqu'un à l'UQAM. Alors, c'est grâce vraiment à l'UQAM, c'est grâce à leur programme qui est vraiment... Marianne, vous pourrez vous en parler. C'est un des seuls programmes de ce genre dans le monde qu'on a pu avoir cette expérience-là, qu'on a pu avoir vraiment l'opportunité qu'on a aujourd'hui.
Est-ce que l'UQAM est la seule université au Québec à offrir la sexologie?
Au monde, en fait. Hein? La seule au monde à offrir la sexologie comme un sujet...
Pour former des spécialistes. Ah oui.
Oui, habituellement, oui, c'est une spécialisation, soit en médecine ou en psychologie. Donc, on est vraiment au Québec des précurseurs, une table tournante par rapport à ça. Et puis, c'est ça. Donc, à travers le stage, c'est sur deux sessions. On met en pratique ce qu'on a appris. On apprend des gens aussi. Et puis, c'est un partenariat qui va faire que l'année prochaine aussi, un autre stagiaire va pouvoir venir et développer sur quoi nos membres nous ont donné comme besoin.
Ah. En effet, c'est un projet pilote. Alors, on a quand même, comme vous avez vu, on a les bases. On sait qu'est-ce qu'on va parler par rapport aux ateliers, on sait qu'est-ce qu'on veut faire, mais on invite aussi les gens à dire, écoute, moi, je veux vraiment parler de ça. Moi, j'ai vraiment telle crainte, j'ai tel problème. Moi, écoute, j'ai telle référence, vous devrez en parler. Ouais. On est vraiment... nous, notre but, c'est d'augmenter... l'autonomie et l'inclusion des gens.
Et la dignité, bien sûr, absolument. Toujours en cheville autonome. Oui. En terminant, Rosie, vous vouliez lancer une invitation pour le 23 septembre?
Oui, alors venez nous voir. C'est un café discussion de 1h30 à 3h30. Contactez-nous, 514-288-1177 ou allez à notre site web tout neuf, va-m.org. Vraiment, c'est gratuit d'être membre, c'est gratuit de faire un tour. On a déjà deux ateliers planifiés pour octobre, alors vraiment, on est là, on vous attend.
Et vous aurez l'occasion de rencontrer cette charmante coordonnatrice de programme, Rosie Arcurie. C'était vraiment un plaisir de vous rencontrer. Merci beaucoup de votre présence en studio, Marianne Rodrigue, stagiaire en sexologie à l'UQAM. Vous entamerez donc cette collaboration avec Vie Autonome dès la fin du mois. Ben, un très beau stage à vous.
Merci.
Et merci de le faire parce que c'est assez précieux. C'est une expertise qui est unique et très, très rare. Eh bien, c'est ainsi que se termine l'émission. Mathieu Tessier à la mise en onde, Christiane Campagna à la recherche, Marianne Paquette au micro. Merci beaucoup d'avoir été là. Demain, on aborde la timidité, oui, les phobies sociales aussi avec une psychologue. Ben, si vous êtes timide, peut-être que ça pourrait vous aider et vous donner des petits trucs. Donc, demain, 14h en direct. D'ici là, portez-vous bien. Bye-bye.